Point de Max.
Qu'est-ce qui se passe avec Max?
Bienvenue dans le Point de Max.
Alors Max, t'as pas répondu.
Max Larouche fait le point sur les gros dossiers du jour, les développements et le wrap-up de ce qui fait jaser aujourd'hui.
Max, pourquoi tu te lances toujours dans les histoires galères?
Boulevard. 102.1.
Jusqu'à midi, le Point de Max.
Ok, oui, 10h01, on s'installe ensemble dans le Point de Max pour les deux prochaines heures. Sous le soleil à Québec, j'espère que vous passez un magnifique début de semaine, un magnifique début de journée. C'est 14 présentement. On va atteindre un 24 aujourd'hui qui pourrait même s'élever jusqu'à 26 ressentis avec l'humidex. Puis la belle semaine qu'on prévoyait dans les derniers jours, bien à date, c'est encore super beau jusqu'à lundi prochain. Pas mal juste du soleil, quelques nuages par journée, là, notamment jeudi et dimanche. Mais pour le reste, c'est vraiment très ensoleillé comme semaine. On va le prendre, tabarouette, de beau mois de septembre. Sur les routes, il y a quoi que ce soit, 418-971-1021. Ça a été lettre ce matin. On va souhaiter que ça reste comme c'est présentement, c'est-à-dire pas pire pantoute, là, parce que, comme je vous disais, ce matin, dans Marceau le matin, mettons que j'ai eu de la job pas mal. Je pense que j'ai quasiment fait plus de circulation que de nouvelles dans le show. Puis ça, c'est pas supposé arriver, mais allez voir sa page Facebook de Boulevard. Vous allez voir que c'était très au rouge. Quand il y a du rouge foncé de même sur la carte de circulation, ben c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les automobilistes. Il y a le Twitch de Boulevard 102.1, le twitch.tv, /BLVD, /FM. Venez rejoindre notre belle communauté qui est là, puis qui jase ensemble pendant le show, pendant les shows, tout au long de la journée de 6h à 18h. Et je vous ai donné le numéro de texto, n'hésitez jamais. Comme je me plais à dire, je suis tout seul en studio, au moins pour la première heure de mon show, sauf quand il y a des invités qui viennent me voir en personne, là, souvent, c'est plus par téléphone ou par Zoom, mais gênez-vous pas. 418-971-1021. Hey, me suis couché tard. Ça se peut que je crash d'ici la fin du show, quoique les Red Bull consommés ce matin devraient aider, mais c'est le fun quand il y a du bon rock qui s'arrête à Québec, puis on a des belles salles pour ça. Le Capitole, quelle belle salle! Et hier, c'est le band Our Last Night qui s'arrêtait du côté du Capitole pour ce qui est sa tournée d'adieu jusqu'à preuve du contraire. Our Last Night, c'est un band de cover, mais pas n'importe quel band de cover. Our Last Night, c'est le meilleur band de cover qui reprend des tunes super populaires à la sauce métal. Là, vous entendez la reprise de That's So True de Gracie Abrams par Our Last Night. C'est avec ça que le show s'est commencé hier. On a aussi pu entendre la reprise d'un gars qui était à Phono en fin de semaine, Alex Warren. Ça, c'est Ordinary par Our Last Night. La dernière toune avant le rappel, vous la connaissez parce qu'on vous parle souvent de cet artiste-là. Il est passé au Festival d'été de Québec. Audrey Pinchot l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup aussi. Beautiful Things de Benson Boone par Our Last Night. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Pour vrai, je pourrais quasiment passer une bonne demi-heure à vous jouer des extraits. C'était tellement bon en show. Ça brassait. C'est pour brasser, ça brassait. J'ai même pas osé m'aventurer dans le pit tellement je suis rendu beaucoup trop vieux pour un tel niveau d'intensité dans le mosh pit. Mais le monde qui était dedans avait bien du fun. Puis pour vrai, je regrettais un peu après le show de ne pas être sauté dedans. À mon âge, j'aurais probablement été capable de m'en remettre. Bref, est-ce qu'il y en a qui étaient là au show de Our Last Night hier du côté du théâtre Capitole? Quelle belle salle, je le répète, pour aller voir des shows. Puis le son en plus qui est super bon. Fait que Our Last Night hier au Capitole. D'après moi, il y a des auditeurs de Boulevard 102.1 qui étaient sur place. Ça a été une tabarouette de belle soirée. Les premières parties qui étaient super cool aussi. Fait que salutations à tous ceux qui en ont profité, tout comme moi. Dans l'actualité, il y a quand même quelques trucs qui retiennent notre attention ce matin. C'est sûr que quand on parle de sondage sur les projets de troisième lien et de tramway, il y a des chances que ça prenne pas mal de place à Québec. Et ce matin, c'est Somme le soleil là, qui nous arrive avec de nouveaux résultats. Si on commence avec le volet troisième lien, il faut se rappeler qu'au mois de juin passé, c'est à peu près... Les chiffres ont pas mal toujours ressemblé à ça dans l'histoire récente, là. 70% de la population de la région métropolitaine de recensement de Québec qui se disait en faveur d'un projet de troisième lien. Ben là, avec le nouveau sondage Somme le soleil, c'est un appui de seulement 59%. La nuance, puis c'est important de le dire, parce que on pourrait jouer un peu avec les chiffres puis dire, si on était par exemple anti-troisième lien, ben vous voyez, l'appui au troisième lien Québec-Lévis est en chute libre. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on demandait au monde s'il était pour. Le projet de troisième lien, annoncé en juin dernier, qui comprendrait un tunnel sur la rive nord et un pont situé environ à mi-chemin entre l'île d'Orléans et les deux ponts actuels. Fait que ce qu'on demandait au monde dans ce sondage-là, c'est pas comme on demandait en juin passé, êtes-vous pour un troisième lien Québec-Lévis? Si êtes-vous pour le projet qui a été présenté par la Coalition Avenir Québec? Et ça, ben, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que ce projet-là, même les plus pro-troisième lien ont comme fait « what the fuck ». C'est quoi ça? Tout le monde s'entend, ou à peu près, pour dire que ça prend un troisième lien à l'est, puis t'arrives, puis tu nous sacs un troisième lien au centre qui sort à une place à Québec qui a pas de maudit bon sens. Que c'est ça. Fait que la baisse d'appui, elle n'est certainement pas envers le projet de troisième lien au sens large. La baisse d'appui, elle est envers le projet de troisième lien qui a été proposé par la CAQ. Puis là-dedans, ben il y en a pas mal vraisemblablement qui doivent se dire « Ouais, ben regarde, c'est mieux ce troisième lien-là que pas de projet de troisième lien pantoute. » J'aurais été curieux qu'on ait plus de détails un peu par rapport à tout ça, parce que c'est clair que ce qui a été présenté par la Coalition Avenir Québec, ben ça ne fait vraiment pas l'unanimité. Donc, si on va dans l'aspect tramway maintenant, le sondage qui offre des résultats qui restent assez stables. Là, il n'y a pas grande surprise. Il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise. 40% qui appuient le projet. 57% qui sont contre le projet de tramway. Puis ce qui reste beaucoup, puis ce qui est un peu un élément qui fait que justement les chiffres ne bougent pas beaucoup, c'est qu'on a bien du monde là-dedans qui sont campés dans leur position. Les anti-tramways, ceux qui n'en veulent pas, ben oui, c'est 57%, mais dans les 57%, il y en a 42% qui se disent totalement défavorables. Puis quand je dis 42%, là, c'est pas 42 des 57. Le 57, c'est le total. Le 42% de ceux qui sont totalement défavorables, additionné à ceux qui sont juste corrects, défavorables, mettons, qui sont contre, mais qui pourraient peut-être changer d'idée. Le point, c'est que dans les 100% au total, là, je ne veux perdre personne, là, il y a 4 personnes sur 10 qui sont totalement défavorables. Puis quand tu es totalement défavorable, c'est que t'es à l'extrême, là. Tu ne changeras pas d'idée. Fait que ces gens-là, je pense qu'on le sait depuis longtemps, là, c'est pas des gens que tu cherches à convaincre, que tu essaies de convaincre les autres. Mais mettons que la tarte du gâteau de gens que tu as à possiblement convaincre, ben elle est pas super grande. Autre sondage qui est un peu dans l'ombre, j'ai l'impression. Alors que c'est super intéressant, les Québécois qui veulent rien savoir d'un référendum sur la souveraineté du Québec, c'est tout près de 2 répondants sur 3 à un récent sondage Palace Data, l'actualité Québec 125, qui ne sont pas en faveur de l'idée. Puis en fait, tu sais, là, je parlais de ceux qui sont juste un peu défavorables, puis ceux qui sont très défavorables pour le tramway, ben on va aller un peu dans le même sens. Un Québécois sur deux se dit carrément très défavorable à un référendum sur la souveraineté du Québec dans un premier mandat du Parti québécois. Fait que ce que ça veut dire, c'est que pour un Québécois sur deux, c'est même pas discutable. On ne veut rien savoir d'un référendum dans un premier mandat. À rien savoir. Pas moyen de bouger de là. On n'est pas... dans le camp de ceux qui pourraient être convaincus. On ne veut rien savoir. Il y a 15% qui sont plutôt défavorables. Fait que c'est mineur, là. La grosse tarte du gâteau va à ceux qui sont très défavorables. Il y a 13% qui sont plutôt favorables, pardon, et 19% très favorables. Fait que t'as quand même une personne sur 5 qui est, bon, souverainiste convaincu, puis que pour elle, ben ça prend le référendum le plus vite possible et tout ça. T'as un 5% bon, qui sont incertains, mais c'est une situation qui est intéressante dans le contexte où le Parti québécois domine en ce moment dans les intentions de vote partout au Québec, encore plus quand tu vas chez les francophones, encore plus quand tu vas dans certaines régions plus précises. Mais le Parti québécois domine alors que non seulement les Québécois sont pas en faveur du projet de souveraineté du Québec présentement. On est toujours aux alentours de 30-35% à ce niveau-là, là, dépendamment des sondages, malgré la recrudescence de l'intérêt des jeunes envers le projet de souveraineté. Mais en plus de ça, la population dit au Parti québécois « On ne veut pas de référendum dans un premier mandat. » Puis là-dedans, il y a des souverainistes. Puis ça, c'est un élément qui est intéressant aussi. Tu sais, moi, vous le savez, je ne l'ai jamais caché, je le cacherai jamais. Je suis souverainiste. Je veux que le Québec devienne un pays. Est-ce que pour autant, je veux un référendum dans un premier mandat? Ben non. Si je pense qu'on va le perdre, le référendum, pourquoi je le voudrais? Pourquoi je voudrais absolument là, qu'on se dépêche à faire ça, puis qu'on se garoche dans le mur, puis qu'on en perde un troisième? Moi, je n'ai pas perdu encore de référendum. Je n'étais pas né en 95. Mais ça m'intéresse pas tant que ça, de vivre la cuisante défaite d'un référendum qui finirait à 63,4% en faveur du non. Là, c'est pas quelque chose qui me réveille la nuit parce que j'y rêve puis j'ai hâte que ça arrive. Là, idéalement, les souverainistes, quand on va avoir un référendum, ben on va le gagner. Fait que c'est pour ça que la promesse, là, puis en même temps, d'un autre côté, là, je veux dire que je salue beaucoup la conviction de Paul Saint-Pierre Plamondon là-dedans, lui qui dit « Hey, moi j'y vais. Moi je vais le faire. » Le référendum dans un premier mandat. Puis jusqu'à maintenant, à toutes les fois qu'on pose la question à Paul Saint-Pierre Plamondon ou à quelqu'un du Parti québécois, la réponse, elle est claire. On fait le référendum dans un premier mandat. On le fait. Peu importe les sondages, on le fait. Et on est beaucoup, 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 puis j'en fais partie, je m'inclus là-dedans, on est beaucoup à penser qu'on va finir par choquer, on va finir par reculer parce que ça a comme pas de bon sens de se diriger vers cette défaite-là qui est annoncée d'avance, puis à moins de tout un revirement de situation. Mais je respecte Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit Moi, je le fais. Moi, c'est dans mes convictions. Peu importe, ça va nous faire planter dans les sondages. Bon, regarde, moi, je veux le faire, le référendum, dans un premier mandat. Bref, ce sera à surveiller. On va aller au téléphone dans les prochaines minutes rejoindre Neil Manek, qui gérait le skatepark EXO depuis quelques années. Skatepark intérieur, le seul à Québec qui est maintenant fermé définitivement. Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que maintenant, c'est à la ville de prendre la balle au bon puis de laisser un espace à ces adeptes-là de skate intérieur, d'arranger quelque chose quelque part? Ben, c'est de ça qu'on va parler avec Neil Manek dans les prochaines secondes, dans le Point de Max. Radio. Les adeptes de skate qui sont en deuil parce que depuis quelques jours, le seul skatepark intérieur à Québec, depuis un bon bout de temps déjà, le skatepark EXO, qui est fermé définitivement. Et pour en parler, on va rejoindre à l'instant celui qui gérait le skatepark depuis quelques années, Neil Manek, qui est au bout du fil. Neil, ça va bien?
Oui, ça va très bien, vous?
Yes, merci beaucoup. Neil, j'avais pensé à te contacter dans les dernières semaines quand je voyais où ça s'enlignait, puis ça m'était un peu sorti de la tête. Puis ce matin, j'ai vu dans l'article du Soleil à ce sujet-là à quel point ça devait être quelque chose de. Une décision qui a dû être difficile pour toi, puis c'est ton père aussi qui était derrière tout ça à la base. Puis je me suis dit, hey, on va y passer un coup de fil. Neil, pourquoi c'était la décision à prendre de fermer définitivement le skatepark EXO?
Vous l'avez très bien dit, c'est une décision qui était très, très difficile. C'est pour beaucoup, beaucoup de gens, surtout les skaters, c'était comme une deuxième maison pendant l'hiver. Mais c'est ça, comme au final, le skatepark, ça n'a jamais été vraiment rentable. Puis, il fallait que à un moment donné, il fallait qu'on prenne une décision d'arrêter avec les pertes. Puis, tu sais, ça a été proposé dans les dernières années de gauche à droite, puis comme la ville s'intéressait à peut-être s'ouvrir un skatepark intérieur public, un skatepark qui pourrait être non seulement juste pour les skateboards, mais aussi les autres sports d'action. Donc, c'est plate un peu, mais on voyait que comme c'est un, fallait qu'on arrête le skatepark, c'est pour les raisons de finances et tout, mais aussi on croit que ça allait peut-être mettre la pression de plus pour avec la ville pour qu'ils mettent pour qu'ils puissent avancer leur projet aussi.
Oui, parce que c'est ça, de votre côté, vous dites à la ville que c'est comme à elle de prendre ses responsabilités. Puis tu sais, vous faites des liens notamment avec le curling en disant, hey, là, si on peut mettre de l'argent en masse dans un centre de curling, je pense que les adeptes de skate pourraient avoir leur petit coin intérieur aussi. On y reviendra parce que je trouve ça quand même important à la base de mettre les gens un peu au courant de la situation actuelle du skate à Québec. Tu sais, ça ressemble à quoi l'état des différentes installations peut-être extérieures, parce que l'intérieur, on l'a dit, il n'y en a plus. Une fois que le skatepark EXO est fermé, ben c'était là le spot. Il y en a-tu pas mal des skaters à Québec? Ça vaudrait-tu la peine pour la ville d'investir là-dedans?
Je crois que ça vaut la peine parce que si on regarde ça globalement, il y a plus en plus de skateparks extérieurs dans toutes les grandes villes, incluant la ville de Québec. T'sais, dans les dernières années, dans la ville de Québec, il y a eu des skateparks à Beauport, Charlebourg, Neuchâtel, Shannon, Lancouin, Lévis, pis tout. Il y a aussi plus des cours de skateboard, il y a aussi plus de gens qui ont commencé à faire du skateboard dans les dernières années. Faut pas oublier le fait aussi que le skateboard s'est rendu un sport olympique. Si on veut que les skateboarders canadiens et québécois peuvent être capables de se performer à l'international, c'est avec comme les autres pays, ça prend un lieu donc ils peuvent pratiquer à l'année longue, pas seulement juste l'été. L'autre affaire aussi, c'est que c'est ça que nous on vient d'un background du skate, le skatepark EXO, ça appartient au EXO qui est comme un des skate shops le plus réputé, le plus ancien dans la province de Québec. Mais quand on check les sports d'action en général, Un autre sport qui est en croissance des dernières années, c'est les trottinettes, qui ça aussi, ça a comme aidé pour les skateparks publics à l'extérieur, c'est partout dans la ville. Mm. Donc ça aussi, c'est, ça prendrait un lieu à l'intérieur qui est sécuritaire puis adapté à eux, qui n'est pas nécessairement le cas de nos skateparks à nous aussi. Là.
Est-ce que vous avez l'impression que l'image qu'on peut avoir du skate, puis là, mettons qu'on va d'un gros cliché, là, mais c'est des bombes, puis c'est une couple de jeunes qui font ça, mais que c'est pas bien ben populaire. Pis, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de la ville, on est peut-être un peu dans ces généralisations-là, puis dans ces clichés-là, puis que c'est pour ça qu'on s'en préoccupe pas trop, puis que notre intérêt pour mettre de l'argent puis du temps là-dedans, puis il est pas tant là?
Ça se peut que oui, mais comme, tu sais, je pense que n'importe qui va à un skatepark aujourd'hui, va se rendre compte vite que c'est plus nécessairement comme ça. Peut-être, tu sais, il y a 10 ans, l'âge moyen, un skatepark, c'était 16 ans, mais à ça, tu vas à un skatepark, puis il y a beaucoup de monde qui sont, mettons, je veux pas dire plus vieux, mais comme, c'est fin vingtaine, début trentaine, même quarantaine. Fait que, tu sais, le skateboard, c'est vraiment rendu tous les âges, de tous les backgrounds, familial, tout. Donc oui, ça se peut qu'il y ait toujours cette image-là. Ça se peut, c'est ça aussi, mais je crois que ça a moins d'impact aujourd'hui, juste parce que il y a plus en plus de monde qui fait le sport, puis le fait que c'est reconnu globalement comme dans les Olympiques, puis plein d'autres compétitions, ben ça aide aussi d'enlever cette image-là que tu viens de dire.
Vous dites dans votre publication pour annoncer la fermeture du skatepark EXO, c'est maintenant temps pour la ville de développer un espace intérieur pour les sports d'action. Dans une grande ville, un skatepark intérieur ne devrait pas dépendre du secteur privé. Si le budget existe pour un centre de curling intérieur, il est fort probable que quelque chose puisse être fait pour le skateboard et les autres sports d'action. Est-ce que les skaters la sentent, cette injustice-là? J'imagine que vous en parlez entre vous. Il doit y avoir une frustration?
Ben c'est sûr que oui, parce que je crois que les skaters, mettons nos fidèles à nous, ils savent que le skatepark EXO, c'était pas quelque chose qui allait durer pour le reste de la vie. Ils savent que c'est quelque chose qui, comme à la fin de la journée, les ventes qu'on avait, ça couvrait pas les salaires. Donc je crois que nos fidèles à nous, ils savaient c'était quoi l'effort qu'on mettait. Puis ils voient aussi ce qui est offert à Montréal avec le TAS puis avec d'autres villes. Puis ils savent très bien que il y a l'opportunité d'avoir un peu plus, qui va être plus accueillant puis plus à jour pour tout le monde.
C'est ça.
Puis surtout, tu sais, quand on voit, comme tu viens de dire, le curling puis le montant d'argent qui est investi dans ça, je pense qu'il y a une situation qui vient de là aussi. Là.
Puis c'est ça, quand tu regardes les villes au Québec en général, on s'entend que Québec est dans les grandes villes. Québec est la capitale nationale. Québec est la deuxième plus grande ville du Québec. C'est pas normal qu'on n'en ait pas ici de centre de skate intérieur. Il y a bien des plus petites villes qui en ont.
Ben exact. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde, la ville de Québec, qui comme, tu sais, ils vont faire, pendant l'hiver, ils vont conduire jusqu'à, tu sais, ils vont s'en aller à La Beauce, à Trois-Rivières, même à Montréal, pour aller faire du skateboard l'intérieur, parce que comme ils ont les centres rénovés, ils ont les centres plus grands. Donc, tu sais, je trouve que comme si on en avait un qui était bien fait, c'est pas nécessairement être énorme, mais juste bien fait dans la ville de Québec, ça peut amener du monde un peu partout de la province, dans la ville de Québec, l'hiver, tu sais, des familles qui cherchent à faire des activités tout, parce que effectivement, on a beaucoup de familles qui viennent l'hiver pour, tu sais, le ski, le snow, d'autres sports. Mais c'est effectivement cool qu'il y ait des familles qui descendent pour ça aussi. Puis même si on prend l'exemple, juste ça, je sais pas si le côté public s'investit dans ça aussi, mais à Trois-Rivières, il y a un centre qui s'appelle l'Adrénaline Urbaine. Gros skatepark, ils ont pas mal de skatepark, ils fait je crois qu'il y a fait BMX, trottinette, rollerblade, tout les sports. Mais eux, à leur deuxième étage pendant l'été, les gens peuvent faire du ski et du snowboard comme sur la fausse neige à l'extérieur. Donc, c'est comme un win-win pour tout le monde.
Est-ce que, parce que là, vous avez mentionné au début, puis ça a comme attiré mon attention un peu, que une des raisons pourquoi là, la fermeture est finalement arrivée, bon, oui, il y a le fait qu'on perdait du cash avec ça, puis ça, tout le monde le comprend, mais aussi pour mettre de la pression un peu sur la ville. Puis ça, ce que j'en comprends, c'est hey, la ville, peut-être qu'elle fait rien aussi en bout de ligne parce qu'elle se disait Hey, regarde, ce gang-là, au privé, là, eux autres, ils sont tellement passionnés qu'ils s'en foutent de perdre de l'argent. Fait que tant qu'eux autres perdent de l'argent avec leur skatepark intégral, nous autres, on est morts de rire et on n'a rien à faire. Là. C'est un peu ça, votre vision, de dire, bon, ben si nous autres, on continue d'offrir cette alternative-là, ben la ville fera rien.
Ben, c'est sûr que, tu sais, je veux pas donner des affirmations puis je veux pas parler en mal de la ville parce que, tu sais, on veut collaborer avec eux sur ce projet-là. Mais c'est sûr, ce que tu viens de dire, c'est un peu notre vision, ce qu'on pensait de ça aussi. Puis tu sais, je pense que si on se met à leur place aussi, c'est comme tu viens de dire, c'est pourquoi tu se lancerais dans ce projet-là quand il y a quelqu'un qui le fait privé aussi. Puis tu sais, l'autre affaire que je veux mentionner aussi, c'est que à la fin de la journée, c'est tu sais, le skatepark existe, c'était quelque chose pour la communauté comme une extension du magasin. Fait que tu sais, à la fin de la journée, oui, il y a l'aspect des finances, il faut que ça roule, il faut que le skatepark soit rentable, faut qu'on soit capable d'ouvrir la lumière. Mais tu sais, à la fin de la journée, c'est n'importe qui travaille dans l'industrie savent qu'un skatepark intérieur, c'est pas l'affaire la plus rentable au monde. Nous, on voulait juste avoir ça pour que notre communauté peut avoir un lieu sécuritaire pour pratiquer leur sport l'hiver. Juste que comme avec moins d'achalandage puis les frais fixes qui montent, c'est ça, fallait juste qu'on prenne une décision. Un décision pour nous à un moment donné.
En terminant, Neil, le niveau de confiance présentement par rapport à ce que la ville nous arrive avec un projet, il est à quel niveau? Puis est-ce qu'on pense que la campagne électorale pourrait devenir un peu un genre d'outil pour les amateurs de skate pour qu'on réclame justement la construction d'un nouveau skatepark intérieur puis qu'un parti prenne ce projet-là et en fasse une promesse?
Mais moi, je reste assez optimiste à l'idée qu'on va avoir un skatepark intérieur dans la petite ville de Québec. Je vais pas prendre un guess à dire quand. C'est sûr que si on s'entend sur un projet qui malheureusement peut prendre du temps, mais je crois que ça peut effectivement être une promesse que des candidats peuvent se lancer dedans pendant qu'ils font leur promesse dans les campagnes électorales. Puis c'est justement quelque chose qu'on a vu avec la mort de la bombe dans le passé quand il parlait comme de transformer le Colisée Pepsi en ouais. centre skatepark, sport d'action, rock climbing, tout le kit. Là.
Merci beaucoup, Neil.
Ouais, merci à vous. Bonne journée. Merci pour ton temps.
Salut. Neil Manek qui gérait le skatepark Exo depuis quelques années. Skatepark Exo qui n'est plus. C'était plus rentable. Puis là, à un moment donné, c'est bien beau être passionné, mais quand tu perds de l'argent pour offrir une place pour un endroit intérieur à des skaters pour qu'ils pratiquent leur sport, ben ça reste une business à mener. Puis dans une business, quand tu perds de l'argent, ben c'est pas. C'est rare, c'est bien, bien positif. Hey, grosse nouvelle qui est tombée dans les dernières minutes, c'est le Globe and Mail qui nous rapporte que Christophe Freeland va quitter le cabinet Mark Carney, le ministre fédéral des Transports. Christophe Freeland, on nous dit qu'elle va s'en aller du côté d'un poste diplomatique lié à l'Ukraine. Une annonce donc qui sera faite plus tard aujourd'hui de ce qu'on comprend par rapport à ça. Quand même particulier, là. Retour du côté du Parlement à Ottawa. Christophe Freeland, qui avait été un peu celle qui a commencé à pousser Justin Trudeau vers la porte. Souvenons-nous, quand Christophe Freeland était arrivé, puis il avait dit « Moi, je ne présenterai pas le budget que je devrais présenter, que tu me fais présenter. » Elle a dit ça à Justin Trudeau alors qu'elle était ministre des Finances. Puis elle voulait être beaucoup plus prudente que Justin Trudeau par rapport au déficit et tout ça. Christophe Freeland voulait pas nécessairement y aller de gros cadeaux à la population pour essayer de retrouver une popularité. Mais en bout de ligne, ben c'est pas elle qui décidait, c'était le premier ministre. Puis le premier ministre a dit à Christophe Freeland, regarde, on peut se mettre d'accord sur certains trucs. Par contre, tu vas en bout de ligne aller présenter le budget. Et là, ben, de mémoire, c'était le matin même de la présentation du budget que Christophe Freeland était arrivé. puis il avait dit, ben moi, je le présenterai pas, le budget, puis à partir de là, ben ça a déboulé. On entendait de plus en plus parler que Justin Trudeau, Chrystia Freeland, ben ça allait pas. Puis Mark Carney est arrivé ironiquement dans le décor pour la première fois officiellement dans ces alentours-là. On en entendait parler. Justin Trudeau était supposé rester, finalement a fini par partir. Puis Chrystia Freeland est resté ultimement, a fait équipe avec Mark Carney. Mais là, d'annoncer comme ça ton départ quelques mois après avoir été réélu comme député, tu as obtenu un poste de ministre des Transports et tu annonces ton départ. D'après moi, ça ressemble un peu à un autre désaccord. Puis Chrystia Freeland était proche en passant de Mark Carney. Est-ce que les rumeurs de déficit qui frôleraient les 100 milliards de dollars? Ben, je vous rappelle, le point de désaccord à la base entre Justin Trudeau et Chrystia Freeland, ben c'était la gestion des finances de Justin Trudeau qui n'avait pas de maudit bon sens, puis ça dérapait. Pis... Fait que là, est-ce que Chrystia Freeland a dit à Mark Carney, « Hey, pour vrai, là, je pensais que tu allais arriver puis gérer ça comme un grand garçon, les finances du Canada, puis finalement, tu es en train de prouver à tout le monde que tu ne gères pas bien comme un grand garçon. » Les finances du Canada. Il y a des questions à se poser. Bref, je vous rappelle la nouvelle. La ministre fédérale des Transports, Chrystia Freeland, qui quitte le cabinet Mark Carney, ira occuper un poste diplomatique qui est lié à l'Ukraine. Le Globe and Mail, qui était là-dessus en premier, là, Radio-Canada, qui a confirmé le tout dans les dernières minutes. Fait que c'est quand même important comme nouvelle, mais la nouvelle en tant que telle, c'est une chose. Moi, ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est si on va en apprendre davantage. Parce que moi, mon hypothèse, là, c'est vraiment que Chrystia Freeland n'aime pas ce qu'elle voit comme gestion des finances de Mark Carney présentement. Puis que dans ce contexte-là, ben elle a préféré quitter. Dans les autres nouvelles qui retiennent pas mal l'attention, Robert Redford, le célèbre acteur qui a rendu l'âme dans les dernières heures à l'âge de 89 ans. Et là, ben du côté du monde artistique, beaucoup aux États-Unis, là, les hommages qui pleuve depuis qu'on a appris la nouvelle il y a quelques heures. Autrement, dans l'actualité, peut-être vous mentionner une bonne nouvelle qui va officiellement, en fait, arriver demain. Normalement, là, la Banque du Canada qui présentera sa mise à jour quant au taux directeur, puis on s'attend à de bonnes nouvelles considérant que la plupart des économistes là, s'attendent à une baisse, le taux directeur qui passerait ainsi de 2,75 à 2,5. Fait que évidemment, c'est un petit break, c'est les finances de tout le monde, et ça, ben on va le prendre avec plaisir. Dans les faits divers qui sont survenus dans la région dans les dernières heures. Hier après-midi, du côté de Lévis, des suspects qui ont été arrêtés voulaient vraisemblablement commettre un vol dans un magasin de vape, de vapoteuse du côté de Lévis. Le Vaposhop, c'est sur la route du président Kennedy. Un gars cagoulé qui est arrivé, puis voulait évidemment se diriger à l'intérieur pour un vol. Puis quand le propriétaire l'a vu, ben, il a interpellé le suspect, l'a poussé dehors. Le voleur a sorti un couteau, s'est sauvé à pied. Il y avait une femme qui l'accompagnait dans un véhicule qui s'est sauvée aussi. Il y avait du monde dans le coin qui ont vu la plaque du véhicule. Puis ça a pris quelques minutes à peine. Le suspect qui était parti à la course a été arrêté. En ayant la plaque du char, ça n'a pas été long que ça a 20. On l'a retrouvé aussi. Le voleur, ce serait un gars de 27 ans, serait connu des autorités. Il était, lui, en plus, pas supposé avoir d'armes sur lui. Là, il en avait l'interdiction. Il y avait un pistolet à plomb aussi en sa possession. Fait que que ça le met pas ben dans une meilleure position non plus. La femme qui était dans la voiture, elle est âgée de 38 ans. Les deux qui doivent comparaître aujourd'hui, on parle d'accusation de vol qualifié, de port d'armes dans un dessin dangereux, de déguisement et de complot. Fait que c'est un petit fait divers qui est survenu dans la région dans les dernières heures. Et vous mentionnez rapidement là, qu'on a un motocycliste qui est toujours dans un état critique, un accident survenu ce matin vers 6 heures sur la route Grand Capucin entre Pont-Rouge et Saint-Augustin-de-Desmaures. On parlerait d'un face-à-face avec une voiture. Le conducteur de la voiture qui a été transporté à l'hôpital pour un choc nerveux, alors que le conducteur de la motocyclette, c'est pour lui dont on craint pour la vie. Dans les prochaines minutes, on parle avec Frédéric Boisvert, les présidents et chefs de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. On va jaser de la baisse des appuis pour le projet de 3 Troisième lien Québec-Lévis présenté par la CAQ. Sondage qui retient l'attention ce matin. Vous écoutez le Point de Max, il est 10h36.
Le Point de Max. 30 $ jusqu'à jeudi, des conditions s'appliquent. La météo présentée par Tonic Gym. Plus de 20 entraîneurs certifiés, une atmosphère accueillante et stimulante près de l'Université Laval. Le Tonic Gym, destination numéro 1 de l'entraînement à Québec.
Bienvenue dans le Point de Max.
Je voudrais juste revenir sur ce que disait Max tout à l'heure.
Boulevard.
102-1. 10h43 dans le Point de Max à Boulevard. C'est 17 degrés à Québec présentement. On attend 24 aujourd'hui, possiblement 26 ressentis avec l'humidex. On va être dans ces températures-là pas mal pour demain et jeudi. Demain ensoleillé, jeudi alternance soleil-nuage. Vendredi et samedi, c'est super ensoleillé aussi. Des maximums un petit peu plus frais à 18 et 16 respectivement. Et dimanche, on terminerait le week-end avec une relativement belle journée aussi, le 21 avec alternance de soleil et de nuages. C'est chaud cette semaine dans l'actualité de la ville de Québec et c'est toujours le fun d'en jaser sur le plan économique avec Frédéric Boisvert, les présidents et chefs de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Frédéric, bonjour.
Bonjour. Max, j'aimerais commencer par te féliciter pour tes nouvelles responsabilités. Je t'ai connu plus dans l'émission du matin, puis on voit que tu prends du galon. C'est bon, ça?
Merci, Fred. C'est super gentil. Je voulais qu'on commence avec un dossier qui revient souvent dans l'actualité depuis des années et des années et des années. Le dossier de troisième lien Québec-Lévis. Puis à toutes les fois qu'il y a un nouveau sondage, ben le constat est assez clair. Massivement, la population en veut un troisième lien Québec-Lévis. Ouais. Mais ce matin, il y a une nuance qui est intéressante. En juin, 70 % de la population de la région métropolitaine de recensement de Québec se disait en faveur d'un projet de troisième lien. Et aujourd'hui, il y a un sondage Somme le soleil qui donne un appui de seulement 59 %, mais attention, faut mettre de la lumière sur la nuance, là. Le 59 % d'appui, c'est au projet de troisième lien qui a été annoncé en juin par la CAQ, donc un tunnel sur la rive nord et un pont situé à environ mi-chemin entre l'île d'Orléans et les deux ponts actuels. C'est un drôle de constat, ça, de voir que 70 % de la population veut un troisième lien, mais quand c'est celui qui a été proposé par la CAQ qui a fait sourciller bien du monde, bien là, c'est une baisse qui est quand même considérable dans les appuis. C'est catastrophique pour la CAQ, ça?
Bien, c'est pas surprenant dans la mesure, Max, où c'est sûr qu'un des projets comme ça, ça a plusieurs itérations. Fait que, bien évidemment, moi, je loin de l'idée de m'attarder à un projet plus qu'un autre, mais il reste qu'on note quand même un essoufflement, là, on se contre pas d'histoire, que ce soit pour le tramway ou pour le troisième lien. Tu sais, à force d'en parler, c'est sûr que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est des résultats. Alors, ça avance pour ce qui a trait aux deux grands projets, là, ça c'est clair, là, autant au niveau du tramway que du troisième lien. On a vu les études, les tests de sol, la portance, tout ça. Mais tu sais, au final, ce qu'on doit savoir, moi en tout cas, ma préoccupation comme chef de la direction de la Chambre de commerce, là, c'est de m'assurer de la plus grande fluidité possible des biens et des personnes en termes de transport. Fait que c'est certain que nous, on voit ça d'un bon œil, les deux projets. Puis évidemment, au niveau du troisième lien, c'est un lien tarif qui est très, très, très important pour l'économie de l'Est du Québec, voire l'Est du Canada. Quand on considère aussi tout le camionnage qui se fait, là, puis on le voit, hein, quand on part de Lévis, là, puis qu'on s'en vient vers Québec ou l'inverse, on voit quand même un flot de camions, écoute, énorme. Puis ça, c'est beaucoup de transports routiers qui partent souvent des maritimes, puis qui arrivent vers, qui passent par Québec, qui s'en vont vers Montréal. C'est sûr que là aussi, moi, ce que je vois, c'est pas seulement ça comme projet qui doit avoir lieu, c'est la fameuse troisième voie sur la 20, qui permettrait de décongestionner de manière substantielle le transport sur l'autoroute 20 vers Montréal. Et ça permettrait aux Lévisiens d'accéder plus facilement à la rive de Québec. Ça, là, ce sont tous des alternatives qui existent. Le gouvernement, évidemment, agit, avance, mais je te dirais, le mot d'ordre, c'est rapidité, accélération, puis écoute, des mesures, des résultats concrets pour les citoyens également.
Fait que si je comprends bien, pour vous, à la Chambre de commerce d'industrie de Québec, c'est mieux ce projet de troisième lien-là qui n'est pas parfait que pas de troisième lien pantoute.
Ben moi, écoute, je réponds à mes pauvres ingénieurs par rapport à ces grands projets-là. Moi, c'est que moi, je fais confiance aux ingénieurs qui font des tracés, qui déterminent les meilleurs tracés possibles. C'est avec les montants dont on parle, là. Pensez-vous une seule minute qu'on a intérêt à rater le tracé ou le débouché? Moi, je pense qu'il faut, tu sais, premièrement, moi, l'appui ou non des projets, vous allez trouver ça bizarre, là. Je dirais pas que c'est non pertinent, mais je veux dire, quand il y a des besoins fondamentaux liés au transport, là, que les gens l'appuient ou non, c'est une chose, mais il faut que ça réponde à un besoin. Puis je pense que le test du besoin a déjà été fait. Maintenant, il faut laisser les experts mettre en place des projets puis des faire aboutir, parce qu'actuellement, moi, là, que ça débouche sur Pierre Bertrand, l'autoroute de la capitale, là, c'est pas moi qui vais faire des études de trafic pour savoir où est-ce que ça débouche. Maintenant, est-ce qu'il y a une question d'acceptabilité sociale dans les quartiers visés? On verra bien. C'est sûr qu'il y aura plusieurs façons, il y aura plusieurs lieux pour que les gens, via la consultation, puisse s'exprimer, mais il reste qu'on est encore au début là, de ce grand projet-là. Là, je parle exactement du troisième lien.
Puis tu dis qu'on est encore au début, puis c'est un peu un
ben, au début, on s'entend, Max. C'est au début, parce que les grands travaux n'ont pas été commencés, on s'entend. Là.
Exact, mais ce que j'allais dire, c'est que ça aurait dû être fait depuis un bout aux yeux de plusieurs, puis il y en a beaucoup qui n'y croient plus. Quand tu parles à des entrepreneurs autour de toi, t'en côtoies évidemment beaucoup.
Ouais,
qu'il y a vraiment encore beaucoup de monde qui y croit à ce projet de troisième lien-là de la CAQ?
Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. On ne se cachera pas là, à cause, en vertu du temps qui a passé. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. Mais moi, là, je te dirais, Max, si j'avais une solution à proposer là, en tant que président chef de direction de la Chambre de commerce, là, c'est qu'il faut absolument dépolitiser ces projets-là. Puis il faut qu'il y ait des agences indépendantes, des agences au niveau des infrastructures là, indépendantes au niveau routier, qui déterminent les tracés, qui planifient des décennies à l'avance des besoins en termes d'accroissement de la population. Là, dis-toi une chose, là, dans 20 ans maximum, là, on a plus de 200 000 personnes dans la capitale nationale. Là, on va dépasser le million, on va être devenu une métropole. Penses-tu une seule seconde qu'on n'a pas besoin du tramway? Penses-tu une seule seconde qu'on n'a pas besoin du troisième lien? Ça, c'est des infrastructures de base pour une métropole. On va devenir une métropole. Donc, ça prend ça. Puis je veux dire, je comprends que les gens ont perdu un peu la foi, mais on parle de vrais besoins. Puis moi, ce que je plaide, là, c'est faut vraiment, tu sais, que le sondage aurait été positif ou négatif. Je dis pas que c'est pas important, je dis qu'il faut partir des besoins. La perception des gens, après, il y a plein de projets dans la vie qui ont été mis de l'avant, ou que la population n'était pas ralliée, puis un coup qu'elle a utilisé les nouvelles infrastructures, les gens s'y sont ralliés. Puis je pourrais donner l'exemple de plusieurs projets d'infrastructures de par le monde où c'est arrivé. Fait que c'est sûr qu'il faut garder le cap, il faut avoir une vision claire, il faut surtout partir des vrais besoins, et non pas des désirs, mais des vrais besoins au niveau de la circulation. Puis je pense que les deux projets dont on parle ce matin, ils ont fait leur preuve, les besoins sont là, faut juste accélérer le plus vite possible, parce qu'on s'entend, les besoins, l'accroissement de la région de Québec, ça va arriver de plus en plus vite.
Oui, puis là, on parlait beaucoup du troisième lien. Dans tes réponses, quand même, tu amenais le tramway dans le sens où, pour vous, clairement, on a besoin des deux. Est-ce que au niveau de la facture, ça, du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, est-ce qu'on le prend en compte, puis est-ce qu'on a nos petits questionnements des fois aussi là-dessus, comme la population
les coûts, les coûts, c'est une grande préoccupation. On se contre pas d'histoire, là. Par exemple, on voyait plus tôt cette semaine le fameux tunnel qui est fait sur Laurier, il va être réalisé à moitié prix que ce qui avait été analysé par la Ville de Québec. Alors, on l'accueille, là. C'est sûr que ça, c'est des excellentes nouvelles. On sent que l'économie ralentit aussi. Ben, qui dit économie qui ralentit, dit aussi des meilleurs prix. Ça se peut même que les prix actuels soient bien plus important que ce que ça va coûter au final, dépendamment du cycle économique dans lequel on va se trouver. Mais tu sais, au final, Max, là, moi, là, ce que je pense, c'est qu'il y a des bonnes dépenses et des mauvaises dépenses. Moi, je suis désolé, mais au Québec, puis encore une fois, au Canada, parce qu'on souhaite que le gouvernement fédéral non seulement participe dans le troisième, dans le tramway, mais également dans le troisième lien, Il y a eu une recrudescence depuis les dernières années d'embauche de fonctionnaires, là, des centaines de milliers de fonctionnaires, tant au niveau du Québec que du Canada. Puis ça, je vais te le dire, là, je suis obligé de te le dire, là, il y a du gras à couper, tant au niveau fédéral que provincial, il y a du gras pas mal à couper. Puis moi, là, avant qu'on commence à se questionner si on est capable de se payer des projets qui vont propulser l'économie de Québec de l'avant, là, je pense qu'il faudrait se poser des questions, savoir est-ce qu'on dépense bien dans les programmes actuels, est-ce qu'on n'a pas un peu trop de fonctionnaires qui vont nous coûter à la fin une fortune en termes de pension, puis de dépenses, puis d'immobilisation. Moi, je pense que c'est plutôt dans ces ordres de questions-là qu'on doit se déplacer, parce que clairement, là, on dépense trop, mais on dépense également mal.
Mm-hmm. En terminant, Frédéric, je veux t'entendre sur ce qui a été annoncé hier, d'abord dans le Journal de Québec avec une entrevue avec Bruno Marchand, qui promet un électrochoc, un investissement de 100 millions de dollars dans Saint-Roch. C'est comme la première grande promesse électorale qui va rester possiblement la plus importante pour Bruno Marchand. En bout de ligne, les oppositions qui l'accusent de ne pas avoir agi avant la campagne électorale, sa maman aime beaucoup son image, je l'ai vu la répéter à plusieurs reprises, là, de Bruno Marchand, il met le feu quelque part, puis après ça, il arrive en pompier pour jouer les héros. Vous en pensez quoi? C'est-tu vrai que ça arrive comme tard alors que Bruno Marchand a été au pouvoir dans les dernières années?
Ouais, ben écoute, moi je veux pas jouer au commentateur sportif en pleine campagne électorale duquel j'ai un devoir de réserve. Toutefois, je dois t'avouer que Saint-Roch, là, moi j'ai vu Saint-Roch au départ quand il y avait le mail, quand j'étais étudiant, j'ai vu Saint-Roch s'est transformé avec le maire Lallier. Quand ils ont investi 60 millions, il y a eu les Marcons qui ont beaucoup investi au niveau des édifices, tout ça. Il y a vraiment eu une transformation majeure de ce quartier-là. Évidemment, on a tous noté une détérioration au cours des dernières années. Puis moi, je vais te le dire, je rencontre des grandes entreprises qui sont là, qui se questionnent à savoir si, ouais, que on va-tu rester là, on restera pas là. Fait que ces genres de signaux-là, là, peu importe c'est quand qui arrive, puis si on juge tard ou pas tard, là, ça les prend. Parce que moi, là, le quartier Saint-Roch, ses promesses n'ont pas toutes été tenues. Il y a clairement là un potentiel qui est énorme. La preuve, les Trudels investissent massivement dans l'îlot de Chester avec un super projet domiciliaire puis d'hôtel qui va faire de ce quartier-là un emblème partout dans le monde. Je veux dire, avec la facture visuelle qu'on a vue de leur investissement, ça va être incroyable. Fait que tu me dis, est-ce que c'est trop tôt, trop peu, trop tard? Moi, ce que je te dis, c'est simple, c'est un signal qu'on avait vraiment besoin. Moi, l'important, c'est que peu importe qui va être le maire de Québec à la fin de cette élection-là, une de ses premières priorités, ça va être la mise en œuvre de ce plan-là, puis de s'assurer que ce quartier-là revive ses belles années qu'on a connues, voilà, pas si longtemps malgré tout. Puis encore une fois, tout le dossier de la gestion des sans-abri avec l'Aubrivière qui est à côté, ça crée une dynamique qui est spéciale. Faut vraiment réussir à trouver un mode de vivre ensemble qui permet à la fois à la grande entreprise d'être présente dans Saint-Roch, puis de s'assurer également que du côté de tes clientèles plus défavorisées-là, qui est quand même une offre, un accompagnement, clairement là, un voisinage, un bon voisinage.
Frédéric Boisvert, président-chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, merci beaucoup.
Merci, Marc. Bye.
Ah ben, on jasait entre autres ensemble de ce nouveau sondage dans Le Soleil ce matin qui nous mentionne que l'appui au projet de troisième lien proposé par la CAQ, ben c'est pas aussi fort que l'appui au projet de troisième lien au sens large. C'est à peu près 10% là, qu'on vient perdre. Fait que les gens qui voulaient un troisième lien voient le projet de la CAQ puis se disent « Ouais, je voulais un troisième lien, mais celui-là, il me tente pas tant que ça. » Généralement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, c'est mieux ce projet de lien-là que pas de troisième lien pantoute. » Mais bref. Dans l'actualité, c'est tombé dans les dernières minutes. Là. Il y a eu décès, malheureusement, dans l'accident dont je vous parlais. On a toutes les infos du SPVQ. C'est vers 6h10 qu'on a été appelé à intervenir sur la route du Grand Capsa. Collision impliquant une moto et un véhicule. Accident qui est arrivé là, à proximité de l'intersection du Haut-Fossambeau. Le conducteur de la moto, un homme de 65 ans qui est décédé. Le conducteur de l'autre véhicule, un homme de 56 ans qui a été évalué par le service ambulancier pour un choc nerveux. Il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé afin de préserver la scène de l'accident pour les fins de l'enquête. La route du Grand Capsa qui est fermée à la circulation dans les deux directions jusqu'à nouvel ordre. Les policiers qui sont sur place pour assurer la fluidité de la circulation. Donc, nos pensées aux proches de la personne qui, malheureusement, est décédée. Dans les prochaines minutes, au retour de la pause, c'est l'open mic d'Audrey Pinchot. 11h05 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102-1 88-971-1021, le numéro pour nous rejoindre en studio. Audrey Pinchot qui a fait son entrée d'ailleurs dans les dernières minutes. On va lui jaser dans les prochaines. Le temps de vous rappeler la grosse nouvelle politique qui est tombée dans la dernière heure. Chrystia Freeland, le ministre fédéral des Transports, qui quitte le cabinet Mark Carney. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle ira occuper un poste diplomatique lié à l'Ukraine. On n'a aucune idée de ce que c'est ça présentement. On ne sait pas non plus si elle va garder son poste de députée, parce que semble-t-il que c'est quand même une possibilité. Fait que j'étais dans le champ finalement, avec mon hypothèse au départ là, qu'elle s'était chicanée avec Mark Carney parce que lui aussi faisait des déficits comme Trudeau, puis je pense que j'étais dans le champ bien raide. Bref, on va avoir plus de nouvelles là-dessus possiblement au courant de la journée. Vous serez à l'écoute de Jeff Fortin ce midi et de l'équipe de Gravel dans le retour. Chose promise, chose due, comme tous les jours, 11h dans le Point de Max, c'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Audrey, comment ça va?
Hey, ça va super bien, toi?
Yes, as-tu aimé ton show de Our Last Night hier soir?
Arrête. Je suis tellement frustrée que tu m'en aies pas parlé. Mais toi, tu pouvais pas savoir. Mais
t'es une grande fille, t'es capable de voir les shows qui viennent à Québec.
Absolument, je l'ai pas vu venir, mais pas du tout. Je l'ai échappé. Tu sais, d'habitude, je suis quand même au courant, je réserve mes spectacles d'avance. On envoie une coupe ensemble dans une année, il faut le dire. Our Last Night, qui est un band qui reprend des chansons ultra connus, les plus grands hits qu'on peut pas connaître de tous les artistes, le pop, name it. Bon, là, on entend une reprise de Benson Boone.
Au hasard, je suis tombé sur elle. Oui, on entend quelqu'un
parler
en arrière aussi.
Oui, je pense
hein?
que tu as ouvert le Twitch, d'ailleurs, twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM.
Non, c'était quelqu'un de TVA, là.
Ah, mais, bon. Ouais. Moins intéressant un peu que le Twitch.
Non, c'est ça. Puis moins intéressant que Beautiful Things par Our Last Night. Ils ont fini avec ça. En fait, c'est pas vrai. Ils ont fini avec ça,
ça va être fou.
Avant leur rappel hier. Puis Our Last Night, en passant, qui ont aussi des tunes à eux autres.
Oh,
là.
Oui.
Ils en ont fait une coupe hier, mais c'est vraiment une tournée dans laquelle ils font des covers parce que c'est ça qui les a pas mal rendus populaires.
Bon, fait que vous voyez le genre un peu, là.
Mais pour vrai, normalement, je vois un show, je pense à te dire comme « Hey, tu viens-tu? Ça te tente-tu? » On dirait que je trouvais que ça criait trop pour toi.
T'aimes pas ça.
Arrête, t'aimes pas ça quand ça crie.
J'aime pas le gros métal où tu comprends rien de rien, Max, puis ça me fait pas un pied en dedans, mais là, on parle pas de la même chose.
Ça brassait hier au Capitole.
Ça peut brasser. Il y a deux affaires aussi. Je pense qu'il y a une différence entre écouter du stock qui brasse dans ton char versus le vivre en show. En show, j'ai pas vraiment de limite musicale, pour être bien honnête avec toi. Je sais pas toi, là, moi, honnêtement, t'sais, dans mon char, j'écouterai jamais du gros métal sale. Là. Honnêtement, jamais. En show, j'adore ça.
OK.
Fait que c'est sûr. C'est possible.
T'aurais adoré.
Hey,
je prends le fer et je le tourne dans ta playlist.
Mais je voyais ce que t'as mis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ça sur la page Facebook de Boulevard, l'Instagram de Boulevard. Puis honnêtement, j'ai eu un petit, comment on appelle ça, le FOMO, Fear of Missing Out. Là.
Ouais, ce que j'ai pas mal tous les jours de ma vie pour absolument tout. Là.
Ben et voilà. Mais c'est loin d'être le sujet qu'on aborde aujourd'hui.
Ouais, non, c'est ça, là.
Hey, mais il y a quand même un lien, par exemple, parce qu'on parle de musique, on parle de spectacle.
Ben oui, tout était prévu. Tu me connais pas encore assez?
Ah, c'était des liens que tu me faisais.
Ben
oui,
je t'ouvrais la porte, puis là, j'attendais de voir que t'apprennes.
Okay. Ouais. Un vrai professionnel. Ouais. Non, mais on parle, par exemple, d'une situation qui se passe dans les spectacles de musique dans les derniers mois. Vous en avez entendu jaser assurément. Ça dure depuis quelques mois où c'est plus présent dans les médias. Mais ça s'est encore passé en fin de semaine passée, puis en fin de semaine dernière au Festival Western de Saint-Tite. Je parle ici de tout ce qui est piqûre au GHB. Ça fait l'actualité parce qu'on est habitué d'entendre parler de des gens qui mettent des affaires dans ton verre, par exemple. Oui. Depuis toujours, moi, j'ai été élevé à surveiller ton verre et toujours ta main sur ton verre. Oui. Fais attention, quitte-le pas des yeux. Confie-le pas à personne. Dans les dernières années, on a vu des alternatives qui sont apparues sur le marché. Les fameux tops qu'on voit dans certains bars. D'ailleurs, si vous savez pas que ça existe, c'est extraordinaire. Là. C'est un top en aluminium. Genre, là, tu colles ça sur ton verre, fait que personne ne peut mettre de quoi dedans. Bref, tu sais, on en venait à trouver des solutions pour ce fléau-là. Et là, ben maintenant, la nouvelle affaire, c'est du monde qui pique pour le plaisir dans dans les festivals, dans les shows, dans les grands événements, puis tu le vois comme pas venir parce que c'est assez subtil, merci.
Puis il y a de l'incompréhension autour de ça aussi, on dirait, parce que tu sais, t'en as parlé du GHB dans le verre, on se dit, OK, ben là, t'as le fameux cas de là, un gars était avec une fille, puis il glisse ça dans le verre pour la ramener. Pis,
il y avait une intention.
Ouais, là, on dirait que la piqûre, de ce qu'on comprend...
C'est pour faire du mal.
Il y a comme du... En tout cas, pour certains cas, puis là, en même temps, on est tellement au début de ce phénomène-là qu'on dirait qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe, puis il y en a pas tant que ça qui se sont fait pogner non plus, qu'on a pu savoir c'était quoi les intentions. Mais c'est ça, comme tu dis, on dirait que c'est juste pour faire du mal qu'il y a plein de victimes, tu passes, tu piques, ouais, ouais, on comprend pas.
Puis même au-delà des effets de la piqûre du GHB, pense plus loin que ça, c'est même pas une question de drogue nécessairement, plus que l'aiguille. L'aiguille est potentiellement contaminée, ben oui, à ce moment-là, tu comprends, par plein d'affaires transmissibles par le sang, que ce soit VIH, hépatite B, C, name it. Fait que c'est quand même vraiment inquiétant comme phénomène. Puis, on en a jasé beaucoup cet été dans les médias. Puis là, tu vois, mon buzz a pogné dans les derniers jours parce que j'ai encore vu des nouvelles publications de filles, de gars qui se sont ramassés à l'hôpital parce qu'ils ont été intoxiqués. Puis, on m'a envoyé le contact d'une fille qui, cet été, l'a vécu ça. Marie-Soleil Parent, qui est une des victimes, je vais dire, de ce fléau-là, qui a été piquée, elle, du côté du Rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'était en juin, ça, de mémoire, ce festival-là. Elle s'en allait passer une belle soirée, puis boum, ça a comme pas viré comme elle voulait, tu sais. Puis, le pire, c'est qu'elle avait pas énormément consommé. Fait qu'on l'a en studio aujourd'hui pour nous raconter, un, son histoire, mais tout ce qui va autour après ça. C'est-tu ramassé à l'hôpital? Est-ce que c'est sur place qu'on l'a traité? Qu'est-ce que ça fait à partir de ce moment-là? Mettons, au niveau policier, comment c'est géré? Y a-tu des suivis? Puis je sais qu'elle en a fait un peu son cheval de bataille dans les derniers mois parce qu'elle s'est rendue compte, justement, via les réseaux sociaux, qu'elle n'était pas toute seule à avoir été victime de ça. Marie-Soleil Parent, bon matin.
Bon matin.
Contente que tu viennes t'asseoir en studio, que tu prennes le temps de nous en jaser parce que j'ai vu ça passer un peu partout, mais j'ai pas pris la peine encore de parler avec quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Puis pour avoir déjà été intoxiqué au GHB contre mon gré, c'est assez paniquant, merci, là, ce que ça fait.
Bien, quand tu sais pas à quoi t'attendre,
ben, ça quand t'es pas au courant, c'est
quand
ça.
T'es pas au courant, ouais, ben, te faire droguer littéralement à ton insu, ton corps, il sait pas ce qui se passe. Fait que c'est sûr que tu...
T'es en alerte, en panique, là.
Ouais, ben c'est ça, exactement.
Toi, tu t'en allais dans ce festival-là, cette fin de semaine-là. J'imagine que, bon, tu t'attendais pas à ça, évidemment. T'avais-tu consommé pas mal? T'avais-tu raconté un peu l'histoire, là?
Bon, ben dans le fond, moi, je viens de Sainte-Catherine. Fait que pour moi, c'est comme...
C'est ton coin, c'est sécurisé.
Ouais, mais... c'est mon coin, c'est sécurisé. Je m'attends pas à ça, nécessairement, de la part des gens. Puis depuis... Ça fait 26 ans, je pense, que ça existe. Puis ça fait 26 ans, j'y vais. Ça fait 26 ans... Ben, ça fait 25 ans que j'ai pas eu de problème parce que là, on va se le dire que c'est quand même assez intense, là. Oui. Je pensais pas... Puis tu sais, l'année d'avant, c'est arrivé à un de mes amis.
OK, fait que... Ah oui, par piqûre
ben,
aussi.
Ben lui, parce que... Non, ben pas par piqûre, peut-être par... Il s'est fait mettre de quoi dans son verre ou je sais pas, là. Mais dans le fond, lui, il a mal viré... littéralement, puis il s'est fait tabasser dans le parking. Puis c'est à cause que moi, j'en ai parlé cette année, qu'il dit « Moi non plus, je me rappelle de rien. » Puis en tout cas, tu sais, ben...
ouais, que là, il
puis là, t'es un gars, fait que là, t'étais trop chaud, puis t'sais, des affaires comme ça, là. Fait que, tu sais, quand c'est une fille, on dirait qu'on l'écoute plus que quand c'est un gars qui se fait droguer à son insu, puis qui vire mal, là, tu penses que c'est à cause qu'il a consommé quelque chose, puis, tu sais, même moi, là, on en a parlé, je me suis fait rencontrer, puis... Il y a comme une page, là, TikTok, là, puis tout le monde m'envoyait ce lien-là. Les commentaires en dessous, là, je me faisais ramasser. Genre, ben... pour vrai, j'étais comme, une chance que moi, ça me dérange pas, l'opinion des autres, puis comme, je sais ce qui s'est passé. Mais pourquoi tu penses que les gens veulent pas en parler?
Ben, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Premièrement, on en parlait d'entrée de jeu, Max et moi, j'ai comme le sentiment que le GHB, avant, on le reliait beaucoup, beaucoup aux agressions sexuelles potentielles. T'sais, les gens droguaient avec un but précis, soit celui de faire du mal. J'ai entendu toutes sortes d'affaires dans les dernières semaines. Des filles qui n'osaient pas parler par peur de ne pas être prises au sérieux. Il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se font droguer, qui savent même pas que c'est ça qui se passe, parce que si tu n'en as jamais pris de ta vie, c'est assez spécial, les effets sur le le corps. Là.
Ben, même toi, tu peux penser que tu es trop chaud.
Ben, mais à un certain point, oui, parce que c'est vraiment à ça que
si
ça ressemble,
consommé,
les effets.
Si tu as exact.
J'ai envie de te demander, avant qu'on parle de tout le reste, là, Marie-Soleil, là, peut-être juste nous raconter cette soirée-là, là, nous donner une idée de comment ça s'est passé, tu te rends à quelle heure, le déroulement un peu.
Ben moi, dans le fond, je travaillais sans vraiment travailler parce que je suis nounou à la maison pour des amis à moi. Fait que on était passe VIP. Fait qu'on était assis plus loin, tu sais, où est-ce que c'est fermé, puis t'as le droit à 3 consommations gratuites, dans le fond. Okay. Fait que t'as 3 billets, ils te donnent 3 consommations. J'ai passé le vendredi, ça commençait à 4h, je pense. Fait que on est arrivé à 3h, le temps de s'installer, puis tout avec les enfants, puis faire le tour des petits kiosques. Fait que de 3 à... Ils sont partis, il était 10h, 9h30, 10h à peu près. Puis ils m'ont laissé tout seul. Parce que, comme j'ai dit tantôt, je viens de Sainte-Catherine. Fait que c'est sûr que j'aurais recroisé du monde que je connais. Puis,
t'étais à l'aise, là.
C'est ça, j'étais totalement à l'aise. Fait qu'ils m'ont laissé tout seul. J'avais bu mes 3 consommations que t'as le droit avec ton billet VIP.
Tu te sentais encore correct à ce moment-là?
Ben, tu sais, ils m'ont laissé. Puis il y a une de mes amies, dans le fond, je vais en revenir là-dessus tantôt, mais il y a une de mes amies, elle a dit: qu'est-ce que vous avez fait à Marceau? Elle était complètement plus là. Fait que là, elle était comme, ben, quand je l'ai laissée à 10h, elle était correcte, là. Elle était totalement apte, puis je veux dire, je m'occupe de des enfants de 6 à 11 ans, là. Faut quand même que je sois alerte, là, pas parce que j'ai bu 3 canettes que, tu sais, j'étais totalement apte. Puis aussitôt que j'ai pris une autre consommation sous le chapiteau...
Ça t'a fessé.
Ça m'a fessé, littéralement. En fait, je me rappelle de rien, c'est toutes mes amies, là, qui m'ont raconté...
Comment? OK, fait que tu te rends pas compte sur le moment que t'es droguée. Là. T'as pas un souvenir de te sentir plus molle?
Je me rappelle de rien. J'ai juste, le lendemain, quand je me suis réveillée, parce que dans le fond, je me suis quand même assez solide pété la tronche, là. J'ai perdu l'équilibre. J'ai échappé quelque chose, j'ai voulu le ramasser, mais t'es tellement mou que... Mon ami, il dit, t'es tombé en triangle, là. Littéralement, j'avais 2 pieds collés à terre, mais la face collée à terre aussi, là. Je suis même pas capable de faire ça à jeun, là. Fait que, dans le fond, c'est ça, là. Et quand ils m'ont retrouvée... Ben, j'ai tombé, puis le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais tellement mal à la face, j'allais me voir dans le miroir, puis je pensais que je m'étais battue.
Oui, parce que là, il faut dire que tu m'as envoyé les photos, c'est assez impressionnant, là, de piquer une plonge, littéralement.
Ah ouais, ben je porte des lunettes aussi, hein, fait que mes lunettes, puis comme tu peux voir, ben là, les auditeurs ne peuvent pas voir, là, mais tu sais, gars, je suis encore marquée, puis on s'entend que c'est depuis...
juin, là.
Début juin, là, fait que...
À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On t'amène à l'infirmerie?
Ben là, c'est ça, dans le fond, je me rappelle de rien, puis j'ai vu du monde, j'ai croisé du monde, puis un moment donné, ils m'ont dit « Suis-nous, on s'en va aux toilettes ». Puis là, moi, à grandeur que j'ai perdu le monde en foule. Puis après ça, je me rappelle de rien. C'est tout ce qu'on m'a raconté, dans le fond, là. Celle qui t'a parlé, qui t'a mis en contact avec moi, dans le fond, elle a vu quelqu'un tomber sa pisse, savoir que c'était moi. Fait que, tu sais, j'ai eu comme des pleins de... Quand que j'ai vu mon ami, j'ai fait « Hey! » J'ai crié son nom, j'ai échappé quelque chose que j'avais dans les mains, je me suis tout penchée pour le ramasser. Là, j'ai tombé en pleine face. Là, lui, il m'a relevé.
Fait qu'on comprend que t'avais vraiment plus le contrôle.
Ah, j'avais plus le contrôle, puis c'est ça, après ça, ils m'ont envoyé, genre, ben, je suis partie à la course pendant qu'ils ramassaient mes lunettes, c'est tourné, j'étais plus là. Mes amis, ils m'ont trouvé, là, sur le bord de la tente, là, je errais, je criais, ramenez-moi chez Marie.
OK, moi, ce que je veux savoir, c'est à partir de ce moment-là, t'es amenée à l'espèce d'infirmerie.
C'est ça,
sur
mes
place.
Amis m'ont vu, ils m'ont amenée au paramédic, puis j'étais tellement pas là, qu'ils me mettaient les flashlights d'en face pour voir la profondeur de mes blessures. Puis moi, je faisais des pauses parce que je pensais qu'ils me prenaient en photo.
Puis y a-tu...
T'sais, j'étais plus là, là. J'étais vraiment rendue déconnectée, là.
Y a-tu un moment où tu reviens? Parce que cet été, moi, tu vois, j'ai été avec un ami au Festival d'été de Québec qui l'a vécu, cette situation-là. Lui, s'est ramassé à l'infirmerie, puis normalement, bon, il te plaque sur le soluté, là, puis tu reviens à la vie à un moment donné parce qu'on te réhydrate,
ça, j'ai eu aucun... À part qu'ils m'ont fait des points de rapprochement. Mais tu sais, il y a une fille qui est arrivée, puis elle a dit on aurait besoin d'une autre équipe de paramédics parce qu'on a trouvé une fille inconsciente dans le bois.
Fait que c'est pas
et là,
seulement
j'en ai pas
toi.
Entendu parler parce que c'est mes amis qui me l'ont dit. Là. Moi, j'étais pas. Mes amis m'ont pris, m'ont amené en auto avec eux, ils m'ont ramené chez moi. Ils ont été deux à me monter dans mes escaliers. J'étais un corps mort, là. Puis je me suis réveillée juste le lendemain matin, là, dans le fond. Je comprenais rien, je me rappelais de rien. J'avais
quoi
mal
à
la face.
À ce moment-là?
Ben là, sur le coup, j'ai trouvé ça drôle parce que j'étais comme, man, ma face, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai parlé avec d'autres mondes que je connais. Ils m'ont dit, moi aussi, il a fallu qu'on me ramène, puis tout de force. J'ai une connaissance à qui c'est arrivé. Puis elle, dans le fond, elle veut vraiment pas qu'on en... On peut en parler, mais je peux pas nommer de nom. Puis elle veut pas que ça se sache, parce que dans le fond, elle travaille en... plus haut placé, là. Puis bref, elle, dans le fond, ses amis l'ont apporté chez eux, puis le lendemain, elle s'est réveillée, puis elle avait fait pipi partout dans sa chambre.
Oui. Ce que je veux savoir, Marie-Soleil, moi, c'est à partir du moment où tu te réveilles le lendemain, est-ce que tu appelles la police? Est-ce que tu vas à l'hôpital?
J'ai été voir la police, pas le lendemain. J'en ai parlé à un agent un agent qui était sur place. Puis il m'a dit qu'il allait me revenir avec ça. Puis le lundi, quand j'ai toujours pas eu de nouvelles, dans le fond, j'étais allée au poste de police à Pont-Rouge parce que je pensais que c'est eux qui s'occupaient de ça. Puis ils m'ont répondu « Ouais, mais t'as-tu été agressée? » J'ai dit « C'est quoi? Il faut que je sois agressée, genre, pour porter plainte? » Parce que je voulais porter plainte. Puis ils m'ont regardé comme si je sortais de nulle part.
T'es pas senti pris au sérieux.
Non, exactement. Puis là, j'ai été chez nous. Puis, dans le fond, il m'avait dit « Je vais prendre tes coordonnées, je vais te rappeler, je vais faire des recherches. » Puis finalement, il m'a appelé le temps que j'arrive chez nous, c'est 5 minutes de distance. Puis il m'a dit « Dans le fond, je te donne le numéro, là, t'appelleras là, puis tout, parce que c'est pas nous autres qui gèrent ça. »
Bon. Depuis, as-tu des nouvelles? Tu me disais qu'il y a comme 2 semaines, on t'a rappelé pour dire que le dossier n'avait pas nécessairement de suivi. Il faut dire que pour les policiers aussi, ça doit être... Je dis ça doit être difficile. On devait parler ce matin avec un policier, puis probablement que je pourrais vous faire le suivi demain dans l'open mic. Là. Ce qui est dur avec cette situation-là en ce moment, c'est que les gens qui font ça sont d'une subtilité. Là. Tu t'en rends pas
c'est
compte.
C'est rapide.
Exactement. Fait que c'est dur de retrouver les gens, finalement, qui le font. Je pense que c'est à Montréal qu'une personne qui a été arrêtée pour un festival dans ce coin-là, si je me trompe pas, Max.
Il y a quelqu'un d'arrêté en Beauce aussi dans les dernières semaines.
Fait que tranquillement, pas vite, on y arrive, mais tu vois que c'est difficile de déceler ces gens-là. Fait que toi, il n'y a pas de suivi de ton côté jusqu'à
maintenant. Non, c'est ça exactement. Là, t'sais, moi, j'appelais les policiers pour faire des suivis. Je leur ai même donné... J'ai parlé à des gens qui ne voulaient pas parler aux policiers, puis je leur disais, allez regarder de ce côté-là, puis tout. Puis finalement, là, c'est ça, ça fait 2 semaines qu'ils m'ont appelé pour me dire que... Il n'y avait pas de suivi.
Comment tu as eu le soupçon que c'était une piqûre puis pas quelque chose dans ton verre, mettons, où tu le sais, peut-être tu le sais
ben
pas
là,
non
plus? Ben là,
c'est
ça, je le sais pas encore parce que moi, j'ai pas été à l'hôpital puis tout, mais tu sais, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, là, de me faire mettre de quoi dans mon verre. Fait que mon verre, je suis quand même déjà assez très stressée avec, puis genre, je le tiens. C'est sûr qu'à la scène 4, tu sais, je me tenais comme ça. C'est des canettes aussi. Puis là, tout le monde était comme, c'est ça, comment que ça a pu rentrer dans une canette, c'est pas un verre. Fait que, tu sais, peut-être que j'ai été piquée, là. T'sais, j'ai eu une... Je me suis fait opérer, moi, d'un bord, là, ici, là. Fait que je sens pas de ce côté-là. Fait que, tu sais, peut-être que je me suis fait piquer, là. Puis t'as des douleurs, comme, une couple de jours après. Mais, tu sais, moi, je veux dire, je pensais que ça venait de ça, là. Pas de la piqûre, nécessairement, là, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a plein de monde autour de moi qui s'est arrivé.
Marie-Soleil, merci d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. T'es loin d'être la seule, c'est fou, parce que sur les réseaux sociaux, la dernière que j'ai lue, que j'ai vue passer, c'est une jeune fille qui s'appelle Océane, puis qui a fait une publication aussi en voulant dire, hey, t'sais, soyez prudents, parce que de plus en plus, justement, on peut pas nécessairement se sentir en sécurité. Tu ne sais pas si ça va t'arriver, fait que de rester en gang, de surveiller, de puis j'ai le sentiment que c'est ça, c'est loin d'être terminé. Là. C'est pas la première fois qu'on en parle, certainement pas. La dernière. Merci de t'être déplacée pour nous raconter ton histoire ce matin. Très apprécié.
Bien, de rien. Ça me fait plaisir.
Puis c'est ça, tu sais, Max, je sais pas si c'est quelque chose qui, toi, t'es déjà arrivé personnellement, là.
Ben, moi, c'est drôle, entre guillemets, mais il y a une fois que je pense que peut-être ça a pu m'arriver. Ceux qui me connaissent savent, j'aime ça prendre un coup, puis ça m'arrive. Mais justement, je connais mes limites habituelles, puis je sais que, mettons, 6-7 coronas d'habitude. Après 6-7 coronas étalés sur plusieurs heures, je suis top shape. Puis ce soir-là, c'est justement ça, à peu près que j'avais bu un 6-7 corona au bar à un moment donné. Puis tout fit comme dans j'ai laissé mon verre quelque part sur une table sans surveillance. Puis je suis comme parti parler du monde, puis je suis revenu. Puis c'est comme là qu'il y a eu un avant puis un après, que l'après, je suis croche, mais croche, là.
Parce que c'est particulier, il faut dire que quand t'es intoxiqué, là, puis chacun son expérience, là, mais ce qui est paniquant, c'est que tu perds le contrôle de ton corps, en fait. Puis souvent, c'est comme ça qu'ils sont capables de détecter que c'est probablement du GHB. Souvent, t'es quand même, t'es mou, là, mais ta conscience est là. Fait que souvent, là, c'est vraiment le tu sais, par exemple, quand c'est arrivé au Festival d'été de Québec cet été, c'est comme ça qu'ils ont décelé que mon chum de gars avait été drogué. Il avait bu peu de consommation, puis à partir d'un certain moment, l'avoir à l'infirmerie, ses propos sont clairs, mais il n'est pas capable de se lever, pas capable de bouger. Il est vraiment, son corps est complètement gelé, si je peux le dire comme ça, là. Fait que c'est particulier, puis, tu sais, on entendait, bon, Marie-Soleil disait qu'elle n'était pas nécessairement allée à l'hôpital, mais le suivi avec les policiers est super important, même si vous n'avez pas envie de parler ou de porter plainte. Ce qui est important, c'est que eux sont capables de monter un dossier, d'avoir plusieurs noms, de savoir où vous étiez, de relier peut-être ces personnes-là. C'est important, ça se fait à long terme. C'est excessivement long, monter ces dossiers-là. Puis, faut aller à l'hôpital pour une raison, c'est que le GHB peut se détecter jusqu'à 8 heures après dans le sang, puis jusqu'à 12 heures dans l'urine. Fait que c'est excessivement rapide, là. Ouais. Ça, je disais, ça quitte ton corps rapidement, puis dans l'idéal, je lisais ce matin, je regardais les différents cas, puis les articles qui avaient été faits dans les dernières semaines. Tu sais, faut que tu consultes dans un délai de 2 heures. Là. 2 heures, ça passe vite en petit pépère, là. Essaye de ramasser un ami, toi, puis de l'amener, puis de t'en sortir en dedans de 2 heures, puis d'être vu. Fait qu'il y a ça aussi. Il y a une incertitude. On pense que c'est peut-être une piqûre, on pense que c'est peut-être du GHB, on pense, mais c'est difficile d'être clair avec ça. Puis, tu sais, j'ai regardé certains reportages ce matin, puis tu voyais des gens qui travaillent dans les festivals qui disent à la sécurité, « Hey, on fouille, on taponne le monde. » On le sait, Max, on se fait taponner quand on va dans les festivals. Ouais. Hey, mais c'est tellement petit, ces seringues-là, c'est tellement petit, ces piqûres-là, que c'est vraiment difficile à détecter. Fait que non, un fléau qui est loin d'être derrière. L'avez-vous déjà vécu? 88-971-1021. Ce matin, je prenais le temps de faire un petit sondage maison sur les réseaux sociaux, puis c'est un genre de 20% de gens sur les réseaux, dans mon entourage, qui l'ont déjà vécu, cette intoxication-là. Fait qu'hésitez pas à m'envoyer des messages. Probablement que je vais être capable de parler justement avec un policier sur le sujet là, cet après-midi ou demain matin, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. T'sais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vraiment une piqûre de quelques secondes, c'est assez pour t'intoxiquer? Les symptômes à survivre? Veiller, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Moi, c'est ce que je me demande en ce moment. C'est la question que tout le monde se pose, en fait. Puis pourquoi les gens le font? Parce que visiblement, c'est plus pour faire du mal puis pour voir des gens s'effondrer que pour une agression sexuelle potentielle comme ce l'était avant. Là.
Merci beaucoup, Audrey. Au retour, Pascal CV s'en vient faire son tour dans le Point de Max. Il nous reste à peu près une demi-heure ensemble.
Le Point de Max. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Korn le 19 septembre prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquette.
Ce segment d'émission présenté par Kia Lévis. Pour votre prochaine voiture, voici deux avantages de faire affaire avec Kia Lévis. Un, ils vendent des Kia. Et deux, ils sont à Lévis. Des questions?
Quand tu passes de « on mange de la poutine maison ce soir » à « on mange de la poutine maison ce soir », c'est parce que la fromagerie Bergeron a maintenant une sauce à poutine.
Soyons honnêtes. Combien d'heures par jour vos yeux passent-ils devant un écran? Oui, ils méritent un peu d'amour. Chez Iris, nos examens de la vue ne servent pas seulement à vérifier votre vision, mais aussi à garder vos yeux en santé et heureux. Même après tout ce défilement sans fin sur votre téléphone. N'attendez plus. Prenez rendez-vous.
Dans le Point de Max. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1001. Pour l'instant, c'est assez beau. Anyway, j'ai eu mon quota de faire de la circulation à matin. Là. Je pense que j'ai passé plus de temps à faire de la circule que des nouvelles. présentement, c'est 24 degrés. C'est pas vrai. 19 degrés à Québec. On attend 24 aujourd'hui, possiblement jusqu'à 26 avec l'humidex. Méchante belle semaine là, jusqu'à dimanche. C'est quasiment que du soleil avec des températures. Pour demain, jeudi, 24. Après ça, ça baisse un peu plus aux alentours de 18, 16, 21. Mais l'important, c'est qu'on a du soleil et qu'on peut profiter d'un magnifique mois de septembre. Parlant de soleil, Pascal CV qui vient d'entrer en studio. Comment ça va, Pascal?
Ah, qui éteint, là. C'était tellement facile. Salut, Max. Ça va bien, toi aussi?
Oui, ça va bien.
Hey, c'était pas facile sur les réseaux routiers. Peu importe où tu vas, dans n'importe quelle direction, ces temps-ci, c'est épouvantable.
Ah, puis, à matin, particulièrement, j'ai mis une photo de la carte de circulation sur la page Facebook de Boulevard. Là. C'est un bel arbre de Noël, mais avec beaucoup trop de rouge. Et ça, c'est pas bon. Là.
Vois-tu, moi, mettons, aller au gym, habituellement, au Tonic Gym, là, ça me prend...
Au gym, pas, toi?
Un peu trop. 12 minutes. Ces temps-ci, je suis à 40-45 minutes.
Ben oui, non.
On s'entend que je pars de Limoilou pour aller dans le coin de Sainte-Foy, là.
C'est 40 minutes.
40 minutes, oui. Merci à mon coach Ravière, qui est vraiment gentil, parce que je suis arrivée en retard deux fois.
Mais t'es très motivée pour faire 40 minutes pour aller au gym, là?
Bien, ça s'appelle le Kilimanjaro. Ça s'appelle travailler deux jours et devoir s'entraîner le matin pour aller au Kilimanjaro dans quelques jours, justement. Bien, écoute, Max, c'est rien. Ça, c'est bien correct, puis ça fait du bien au mental. Il y a des gens qui vivent des choses un peu différentes des nôtres, soit d'être dans le trafic. Et parfois, être à bord de sa voiture, ça peut mener à un potentiel de catastrophe. C'est le cas hier, je ne sais pas si t'entendais, sur l'heure du midi.
Oui, j'ai écouté, c'était très bon, bravo.
Bien, en fait, c'est à Claudia Boucher que revient l'honneur de se confier là-dessus. C'est celle qui est survivante, qui est victime survivante de l'accident du côté de Lobinière entre un poids lourd qui a ramassé sa voiture, qui sa voiture s'est ramassée à être la crème dans l'Oreo avec un autobus scolaire à l'avant d'elle. Elle était immobilisée et il y a un jeune qui sortait de l'autobus. Puis à ce moment-là, il y a le poids lourd qui l'a ramassé, là, mais pas à peu près en arrière. Donc, démolit sa voiture. Puis c'est étrange, mais fulgurant à quel point c'est comme un miracle. C'est son côté à elle, là, conducteur, qui est comme... honnêtement, sauvé parce que le reste de sa voiture en est une perte totale. Il n'y avait pas d'enfant à bord de son auto. Habituellement, elle a sa petite fille dans le banc arrière. Tout ça pour dire qu'ils ont frôlé la catastrophe. Puis j'ai fait une entrevue avec elle que j'ai présentée. Justement, je vous laisse Claudia Boucher raconter à quel point ils ont frôlé la catastrophe dans cet accident-là la semaine dernière.
Ça a frôlé le drame. Il y avait un garçon qui était en train de traverser devant l'autobus aussi. Ça, je l'ai su par la suite. Lui, il a sauté dans le fossette. Il a entendu l'impact, il a faussé dans le fossette, mais il se faisait ramasser. À tous les égards, on a frôlé la catastrophe, là, mais à un haut niveau. Là. Il arrivait sur son élan, c'est sûr, puis il était probablement pas attentif à la route parce que ça se peut pas. T'sais, moi, je me suis adressée à lui. Ce que je t'ai dit là, c'est la déclaration que j'ai faite aussi à l'enquêteur. Le voisin lui a parlé, il a répondu qu'il parlait pas français. Fait que moi, je me suis adressée à lui en anglais. Et je lui ai dit « There is no way ». Ça se peut pas que tu nous aies pas vus. Tu étais sur ton téléphone ou tu textais, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, je me suis adressée à lui en anglais, dans le fond.
À quelques reprises depuis, j'allais dire quelques mois, mais je pense que c'est une histoire d'années puis c'est un phénomène qui s'est accentué. On parle dans l'actualité de camionneurs formés un peu tout croche en Ontario qui se font donner des permis. Mm-hmm. Là, on ne sait pas si c'est exactement ça, le cas-là. Hier, du moins, on a eu en lien avec ça une nouvelle là, du côté de l'Ontario. C'est, je crois, 185 permis qui ont été suspendus pour 3 mois.
90 jours au total.
Des fois, ça prend malheureusement, là, on a frôlé la catastrophe, la tragédie. Pour que ce soit le wake-up call.
Bien, il y en a eu des tragédies en Ontario. Il y a une femme, son enfant qui ont perdu la vie. Il y en a au moins 3-4 qu'on peut recenser dans les derniers mois, soit des morts. Là. Elle s'en est échappée, Claudia Boucher. Les jeunes s'en sont échappés, le conducteur du camion aussi. Mais on a frôlé la catastrophe ici à Lobinière. Et c'est justement au réveil que je vois pas, moi, cet article-là. L'Ontario suspend les permis de 185 camionneurs qu'on considère comme étant des mauvais conducteurs. Et là, ça me rappelle toutes les conversations qu'Yannick Marceau, que moi, on a eues avec Benoît Thérien de Truck Stop Québec. Il y a eu une enquête aussi de Radio-Canada. Ça fait des mois, voire des années, qu'on se dit « Hey, c'est pas normal, là. » On dirait qu'il y a comme des permis qui sont donnés dans des boîtes de Cracker Jack. Suite à l'entretien que j'ai eu avec Claudia, ce matin, je parlais à Benoît Thérien, puis j'ai demandé « C'est quoi qu'il faut faire en ce moment dans l'industrie du camionnage? » Avec la nouvelle d'aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est un nettoyage, en fait, de l'industrie qui est en train de se faire?
Ben, je pense que la pression s'accentue sur l'Ontario puisque c'est l'épicentre des problèmes de formation de stratagèmes, de chauffeurs Inc. et de tout ce qui en découle de nos accidents et de la sécurité sur nos routes présentement. Quand on forme mal des chauffeurs, ben, on sait qu'il est arrivé des accidents dernièrement, notamment dans le coin de la région de Québec là, avec l'autobus, tout ça. Mais il est temps que l'Ontario bouge et que l'Ontario fasse sa job de nettoyer son industrie puis en nettoyant nécessairement l'Ontario, ben ces entreprises fautives-là vont peut-être cesser de donner des formations inadéquates à leurs chauffeurs. Puis je dis bien à leurs chauffeurs parce que souvent ces gens-là sont le résultat de ce qu'on appelle la magouille en bon français. Eux autres, ils arrivent ici, ils aspirent à une meilleure vie, on leur donne peut-être 1000 piastres, 1200 piastres par semaine, ils deviennent, par la force des choses, tu sais, ils adorent le métier, tout ça, mais ils sont pas formés. Donc, la journée où ce que l'Ontario formera ses chauffeurs adéquatement, ben on aura une victoire assurée.
Là, je me demandais, coudonc, là, on évoque le stratagème, on parle de genre petite arnaque, là. Là, je pèse mes mots, mais ça semble être ce que Benoît Thérien dit qui se passe dans l'industrie du camionnage.
Une crosse.
Une crosse du côté de l'Ontario. Ça serait le stratagème?
Je dirais par des compagnies véreuses qui ont la peau du gain plus que n'importe qui d'autre. C'est un stratagème que je pourrais peut-être, c'est un exemple boiteux, là, mais qui ressemble étroitement avec de la prostitution. Je recrute des chauffeurs en Inde, je les place dans des compagnies sous différents stratagèmes. Je les emmène ici par un visa étudiant, je les modifie en visa d'investisseur, puis je leur donne un job. Je paye l'école pour que les heures soient réduites, pour qu'ils rapportent le plus rapidement possible. Puis j'ai à ma tête un paquet de chauffeurs que j'utilise et que je prends. Fait que ça s'est instauré très tranquillement ici au Québec, mais en Ontario, le problème est connu depuis longtemps. Puis même que le ministre Zakaria, qui est le ministre des Transports provinciales de l'Ontario, bouge pas dans le dossier. Vous allez me dire, il est indien, mais il est pas indien arrivant de l'Inde. C'est un indien où ses parents résidaient en Ontario. Puis lui, ben, il a décidé, il est né en Ontario, il a décidé de se présenter en politique. Est-ce que ça ouvre la porte à des échanges puis des genres de souplesse? Peut-être. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est trop facile présentement pour un Indien de l'Inde ou un Pakistanais du Pakistan de venir ici sous différents chefs. On les modifie, puis après ça, va-t'en sa route me rapporter le plus rapidement possible. Souvent, ils sont pas assurés, mal formés, puis les compagnies abusent carrément d'eux.
J'ai sursauté en entendant le parallèle avec la prostitution, mm-hmm. mais en même temps, ça répond à une grande question que j'avais de « OK, mais les compagnies qui font justement cette magouille-là, qu'est-ce qu'ils gagnent? » Ben là, la réponse a été donnée. C'est « OK, je te forme tout croche, je te donne un permis, puis toi, tu t'en vas travailler pour une compagnie X, puis tu me donnes une cote. »
T'embarques tout de suite dans le job, puis on sépare un peu l'argent que tu vas faire là-dedans. Puis écoute, moi, je me suis demandé comment est-ce qu'on a targeté les 185 chauffeurs, parce que c'est pas des gens qui ont eu des accidents de ce qu'on comprend. C'est pas... En fait, c'est ça que je voulais comprendre. Comment on a targeté ces 185 chauffeurs-là? C'est parce qu'on est au courant de certaines affaires, justement, puis on a décidé d'aller bouger là-dedans. On écoute Benoît Thérien de Truck Stop Québec.
On n'a pas de boule de cristal, mais je pense techniquement qu'on a ciblé des centres de formation qui recevaient des enveloppes brunes et peut-être aussi dans la base de données des gens qui ont eu des accidents. Donc, prouve-moi que tu sais bien conduire. Tout ça sortira éventuellement, mais je pense que la formation, ou en tout cas, on a ciblé des écoles. Ça avait passé sur les réseaux CTV, là, des écoles qui fraudaient le système carrément. Puis on a peut-être décidé du côté de l'Ontario de s'éveiller là-dessus et de trouver le moyen que ces gens-là soit retournent ce qu'on appelle un road test, là, faire un test de la route et voir s'ils sont adéquatement formés. Mais c'est déjà un bon début, là.
On les a targetés. On en a, bon, pointé du doigt 185. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Est-ce qu'on va être capable d'évaluer, en fait, qu'ils sont mauvais sur
là,
la route, qu'ils n'ont pas de qualification assez ferrée pour ça?
C'est ça, parce que là, c'est une suspension de permis de 90 jours.
Oui. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions?
On l'espère.
Bien, j'aimerais ça te dire oui. J'aimerais carrément entendre que sur les 185, bien, on en a mis X montant, X nombre, disons, hors service, parce que c'est une plaie dans notre industrie. Ça prend tellement de temps à bâtir notre crédibilité dans l'industrie du transport, puis des gestes comme ça, où des 180 personnes, puis ça, c'est la pointe de l'iceberg, là, mais que 180 personnes doivent aller se faire enquêter, là, si je peux m'exprimer ainsi, ben ça va ramener peut-être une certaine paix, ça va peut-être ramener un peu de quiétude dans notre industrie, mais maudit qu'il est temps qu'on agisse, puis maudit qu'il est temps que ça bouge. Puis si, mettons, on a 180 chauffeurs sur 185 qui sont pas adéquatement formés, t'imagines-tu que la patate chaude va retomber au ministère des Transports d'Ontario et de Mme Freeland, qui est au transport, mais au niveau fédéral? Ces gens-là vont devoir répondre, là. Ils vont devoir faire le move rapidement. J'ose croire que, c'est plate à dire, là, mais ça prend des actes comme ça pour modifier la réglementation, la formation dans notre industrie.
Là, c'est sûr qu'il doit y avoir enquête, puis tant qu'on n'a pas des résultats probants après cette enquête-là, on peut pas pousser les sanctions. Ben, mais il faudrait lancer un message, ça, c'est clair.
Le target de ces écoles-là est intéressant si jamais c'est ce qu'on a fait pour aller sanctionner les 185 chauffeurs, de se dire, il semble avoir un épicentre là, d'une mauvaise formation, d'un genre de stratagème X. Tu sais, Benoît Thérien, c'est le fondateur de Truck Stop Québec. Il est sur les routes continuellement. Il jase avec des camionneurs. Il en fait des podcasts. C'est un gars qui sait ce qui se passe sur nos autoroutes ici au Québec puis un peu partout.
Puis au-delà des... d'avoir des conséquences pour les camionneurs, c'est de viser plus haut,
exact,
aussi, là.
C'est l'entreprise aussi qu'il faut aller voir. Bon, est-ce que vraiment il y a un stratagème? Est-ce qu'ils sont camouflés? Est-ce qu'ils sont protégés? On a parlé beaucoup du politique là-dedans. Puis tu le sais, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Il y a une affaire qui me pue au nez, moi. Puis je pense que c'est pour ça que je fais ma job. C'est la défense des gens passe majoritairement maintenant et de plus en plus dans ce genre de dossier-là par les médias. Ça me pue au nez, mais c'est ma job. Étrange, un peu ironique, là. Genre, ça me dégoûte que vous ayez à passer par nous pour faire avancer des dossiers. Mais encore une fois, dans l'actualité ce matin, je me suis demandé, c'est-tu encore une histoire d'absurdité qu'il faut passer dans les médias pour que le politique bouge?
C'est très absurde. C'est y a personne au niveau politique, à part les partis d'opposition, qui s'intéressent aux dossiers. Les partis au pouvoir, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux, ils s'en sacquent, ils s'en lavent les mains, mais les pertes de vie qu'on a ou les blessures ou les blessés qu'on a présentement, ben faut attribuer la faute à l'inaction de ces partis politiques-là qui font absolument, mais absolument rien. C'est pas qu'ils le savent pas, ils sont au courant, là, mais il n'y a pas personne qui a de l'intérêt à bouger là-dedans.
Pas d'intérêt à bouger là-dedans. Moi, j'ai figé à ce moment-là quand je parlais avec Benoît, puis je me suis dit, pas d'intérêt à bouger là-dedans. Il me semble que, bon, je comprends pour l'opposition, il y a mon chef d'éragie qui en parle souvent au niveau des libéraux et tout ça, mais il y a un capital politique. Dans le pire des cas, là, si tu es un genre de politicien qui se dit, bon, moi, j'ai besoin de dossier qui fait réagir le monde pour aller jouer là-dedans parce que sinon, je trouve que ça sert à rien, je veux être réélu. Mettons un genre de politique véreuse, un peu comme ça. Je me dis, ben, il va attraper le dossier, je peux pas croire qu'il voit pas du capital politique. Il y en a qui vont le faire pour les bonnes raisons. Mais je ne saisis pas pourquoi ils ne mettent pas la main sur le gros dossier étoffé avec des enquêtes et avec le fait qu'on en parle autant depuis quelques semaines. Et pourtant, il y aurait du capital politique à faire là-dessus, non?
Mais si tu es ministre dans la région de Brampton ou en Ontario, tu es le ministre du Transport, puis que c'est des gens que tu connais ou que tu sais très bien qu'il y a des compagnies qui utilisent peut-être des stratagèmes mafieux pour emmener la main-d'œuvre, je pense qu'il y a peut-être une crainte rendue là que de bouger. C'est-à-dire que, ben, on aime mieux fermer les yeux là-dessus que d'aller peut-être foutre le bordel là-dedans. Parce qu'ils le savent, là. Tu sais, jamais je croirais que Zacharia est pas au courant. Jamais je croirais que Mme Freeland n'est pas au courant. Puis encore moins M. Carney qui fait la sourde oreille. Puis qui a pas d'intérêt à entendre ça. Au Québec, ben on a des oppositions qui ont bougé. Au niveau fédéral, un peu de bloc qui bouge. À part de ça, là, je pense qu'on a un grave problème. Puis à qui paye tout ce stratagème-là? Puis peut-être que la réponse nous fera peut-être penser qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'intérêt là-dedans.
le temps me semble bon pour vous rappeler la grosse nouvelle quand même au fédéral des dernières heures à l'effet que Chrystia Freeland quitte son poste de ministre fédéral des Transports. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle va aller occuper un poste diplomatique en lien avec l'Ukraine. Elle va rester ou pas députée, ça on n'a pas l'information encore, mais Chrystia Freeland qui va quitter son, son ministère des Transports, son poste de ministre des Transports. Fait que c'est pas elle qui aura vraisemblablement ce dossier chaud-là entre les mains, mais clairement, il y a des questions à se poser. Là où je comprends peut-être la réticence de certains politiciens à bouger, c'est que ça peut toujours être touché de s'attaquer à des dossiers qui viennent toucher des gens qui sont de nouveaux arrivants.
L'immigration, c'est difficile, c'est sensible, mais ça devient problématique quand justement tu y touches pas parce que c'est sensible,
exact,
et difficile.
Vraiment.
Puis ça, là, va falloir qu'on s'y mette puis qu'on commence littéralement à aborder la question parce qu'on en a besoin de ces gens-là d'ailleurs, mais on a besoin de les intégrer comme il
ben
se
oui.
doit. Puis on n'a pas besoin de lever le nez, pas de façon hautaine, là, je parle de façon à se dire « c'est trop frileux politiquement d'aller là ». Non, au contraire, si tu veux que ça se passe bien, c'est pas en levant la tête puis en tournant les yeux. Il faut tout simplement que ça se fasse de la meilleure des manières possibles. Je pense que tous les dossiers issus de l'immigration, effectivement, ça vient trop sensible.
Merci beaucoup, Pascal.
Ça me fait plaisir.
On t'écoute tantôt avec Jeff et on te retrouve aussi demain dans le Point de Max. Pour terminer le show rapidement, c'est une nouvelle qui a été... Ben, en fait, c'est un communiqué de Leadership Québec, le parti de Sam Hamad, où on nous informe que Sam Hamad demande à Bruno Marchand de cesser toute décision sur le tramway. Les citoyens n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer directement sur le projet qui n'a pas été modifié comme Bruno Marchand s'y était engagé. Par respect pour la démocratie, ce sera la première fois le 2 novembre que les citoyens auront l'occasion de se prononcer clairement pour ou contre le tramway. Et pour Sam Hamad, la seule option responsable, c'est de mettre le tramway sur arrêt. Il dit que depuis trop longtemps, c'est devenu ce projet-là un synonyme de division et de dépenses incontrôlées. Et c'est aux citoyens, au moment de l'élection, de décider de l'avenir. Leadership Québec propose une alternative crédible avec le SRB+, un réseau flexible et adapté aux réalités de Québec. Donc, Sam Hamad qui demande à Bruno Marchand de cesser toute décision sur le projet de tramway de Québec. D'après moi, Jeff Fortin va assurément vous en parler ce midi avec Antonine Iacarini pour le caucus Iacarini et aussi Pascal CV que vous venez d'entendre comme tous les jours aux alentours de 11h30, 11h35, 11h40 dans le Point de Max. Fait que c'est déjà l'heure de se dire un gros ciao bye. On va se retrouver demain matin, 6h pour Marceau le matin avec Yann Marceau, Jeff Fortin et moi-même. Puis après ça, dès 10h, ben ce sera le Point de Max. Puis je vais pouvoir vous casser les oreilles parce que Machine Gun Kelly va annoncer sa tournée qui va entre autres s'arrêter au Centre Bell. Fait que salut là, bye.
Le